Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie pour le 298e numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. La diffusion du 300e est prévue pour la fin de ce mois de janvier. Et j'en profite pour remercier encore une fois tous nos auditeurs et auditrices de leur fidélité à cette émission que nous avons lancée en septembre 2017 avec ceux qui sont toujours à mes côtés aujourd'hui. Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Merci aussi à vous deux de votre soutien et de votre participation régulière à Mélomanie, qui n'existerait pas sans vous. Le grand événement de la fin du mois, c'est Orphée aux Enfers, le bel opéra de Jacques Offenbach, à voir au Théâtre du Capitole du 24 janvier au 2 février, dans une mise en scène d'Olivier Py. Robert va nous présenter cette nouvelle production en seconde partie d'émission. Dans les médias, c'est avec Serge que nous allons revenir sur les concerts donnés la semaine passée à Toulouse. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à tous les deux et encore merci d'être une fois de plus au rendez-vous de Mélomanie. Retour d'abord sur le concert donné par le trio Zélia à Saint-Pierre-des-Cuisines mardi dernier, une jeune formation invitée par les Arts Renaissants et dont c'était la première dans notre ville. Nous y avons retrouvé une musicienne qu'on connaît bien à Toulouse et pour cause puisqu'elle en est originaire, la violoniste Manon Galli. Serge va nous rappeler qui étaient ses camarades de jeu et quel programme ils ont joué.
Alors, autour de Manon Galli, on a retrouvé le violoncelliste Maxime Kennesson. Je dis retrouvé puisqu'il était déjà en concert dans la série des grands interprètes avec Renaud Capuçon en novembre dernier. Et le pianiste, alors excusez-moi, je le prononce à la française, Georges González Boujazan. Donc, tous les trois forment ce fameux trio qui se consacre à des grandes œuvres, puisque au cours de ce concert-là, nous avons retrouvé deux des grands compositeurs de musique de chambre de l'époque romantique, Franz Schubert et Johannes Brahms, avec alors deux œuvres opposées sur le plan biographique, puisque le trio numéro 2 en mi bémol majeur de Franz Schubert, qui ouvrait le concert, est une œuvre, on ne peut pas dire de maturité ou de jeunesse ou de vieillesse, puisque Schubert avait 30 ans, il allait mourir dans moins d'un an, et donc c'est une de ses dernières œuvres.
Et c'est l'opus 100 en plus.
Et l'opus 100, Deutsch 929, dans le catalogue Deutsch donc. Et puis, un trio de Johannes Brahms, mais là au contraire un trio de jeunesse, qui est le premier trio en si majeur, mais dans la version qu'il a révisée 40 ans après. Donc c'était vraiment
ça, c'est étonnant,
assez
en effet,
particulier.
Un trio numéro 1, opus suite, donc vraiment neuf de jeunesse. Il a 20 ans quand il compose la première version.
Les tout débuts. Hein,
voilà, 1853-1854, et il la révise en 1891.
Et voilà, alors il n'avait pas encore le gros ventre et la grande barbe, il était tout jeune, et donc ça donne une œuvre pleine de vie, une œuvre d'une grande beauté. Hein. Donc on a d'abord eu le trio de Schubert, là on a pu admirer l'énergie vitale de ce trio, avec quelquefois un piano peut-être excellemment joué évidemment, mais peut-être un peu trop dominant vis-à-vis des cordes, et avec notamment... Personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'andante con moto, sorte de complainte un peu à l'avant-dureur. On sent qu'il y a le voyage d'hiver qui n'est pas loin, hein, donc c'est très bien. Avec quelques éclaircies passagères, comme dans le scherzo. Et puis, ce retour dans le mouvement final vers la vie, mais avec comme des rechutes tragiques. C'est vraiment une œuvre magnifique, hein, de toute beauté. Et puis ensuite, nous avons eu donc le trio pour piano et cordes numéro 1, il est en si majeur, de Brahms, mais qui résonne tout à fait autrement. Donc il a été composé à Hanovre, et puis donc révisé, comme vous l'avez dit, presque 40 ans après. Et c'est cette version finale qu'a joué évidemment le trio Zélia. Dès la première phrase, alors c'est une... d'une générosité, d'une beauté lyrique qui était, mais alors magnifiquement jouée par le violoncelliste Maxime Quenesson, vraiment qui a chanté cette mélodie comme s'il s'agissait d'un lied. C'était d'une stupéfiante beauté à la fois plastique et expressive. Un grand moment de cette production. Et puis les trois autres mouvements qui se sont succédés avec dans l'adagio une sorte de rêve. On a l'impression que le temps est suspendu, que c'est d'une beauté insigne. Et puis l'animation jusqu'à la fin avec la passion musicale de la jeunesse qui transparaît quand même dans le mouvement final. Alors le public a été très enthousiaste hein, et il a obtenu donc de ses trois complices pas moins de 2 bis, avec tout d'abord le final du Gipsy Trio de Joseph Haydn. Ah bah là, c'était vraiment l'enchantement du folklore. Hein. Et puis ensuite, nous avons eu le prélude des 5 pièces pour 2 violons et piano de Shostakovich, dans lequel Maxime Quenesson utilise son violoncelle comme un grand violon, en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs en présentant cette dernière œuvre. Vraiment un très beau moment. Et puis, il faut signaler que la saison des Arts Renaissance se poursuit. Et le 4 février prochain, elle recevra un ensemble vocal de très grande qualité qui s'appelle Gesualdo Six. Donc, c'est aussi un concert qu'il ne faudra pas manquer.
Oui. Sextoire vocale britannique que j'ai eu l'occasion d'entendre à 2 reprises à Rocamadour, qui est vraiment de très, très haut niveau. Vous verrez la beauté des timbres, la précision. Enfin, c'est à l'anglaise, quoi.
On sait que l'Angleterre est la patrie des grands chœurs
des beaux ensembles vocaux.
Voilà.
Eh bien, nous allons avoir le plaisir de réécouter maintenant le trio Zélia dans un extrait du trio numéro 2 opus 100 de Franz Schubert avec son célèbre 2e mouvement Andante con moto, rendu célèbre auprès des cinéphiles par le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Le 2e mouvement d'Andante con moto du trio numéro 2 opus 100 de Franz Schubert dans la version enregistrée par le trio Zélia, un CD paru sous le label Mirare Le prochain concert donc des Arts Renaissance, Serge vous l'a annoncé, est programmé le mardi 4 février. C'est également à 20h et c'est toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines avec le sextoire vocal britannique Gesualdo Six. Véritable événement, ne ratez surtout pas cette date. L'autre concert de la semaine était celui de l'Orchestre National du Capitole, donné samedi sous la direction de Tarmo Peltokoski à la Halle aux Grains. Il y avait une seule œuvre au programme, A Sea Symphony, la première symphonie de Ralph Vaughan Williams. Serge, là, elle était pleine à craquer pour découvrir cette pièce qui n'avait jamais été donnée à Toulouse jusqu'alors.
Jamais, et bien d'autres œuvres de ce même compositeur n'ont jamais été données à Toulouse. Je crois que la seule œuvre que j'ai entendue à la Halle aux Grains, c'est son poème symphonique « The Lark Ascending », c'est-à-dire « L'envol de l'alouette », qui a d'ailleurs été dirigé le 21 octobre 2022 par Tarmo Peltokoski.
Oui, ben c'est lui qui nous l'amène, et c'est pas fini apparemment, puisqu'il a l'intention d'enregistrer les 9 symphonies.
Et surtout de les jouer à la Halle aux Grains, avec l'Orchestre National du Capitole, donc les 9 symphonies, encore un compositeur qui a arrêté de composer après sa 9e symphonie. C'est la malédiction de la 9e, ou de la 10e,
je ne sais pas.
Enfin, oui, de Beethoven, Mahler, Bruckner, Schubert. Et donc, Vaughan Williams, qu'il faut rajouter à la liste. Alors, cette œuvre, vraiment, enfin, pour ma part, ça a été une révélation. Un événement musical, un véritable chef-d'œuvre, donc intitulé A Sea Symphony, c'est-à-dire une symphonie de la mer. Elle est conçue pour soprano, baryton, chœur, orchestre et orgue. Et c'est sur des textes du poète américain Walt Whitman que les 4 mouvements s'organisent, donc en quelque sorte. Vraiment une grande beauté, d'ailleurs, qui démarre dès les premières mesures, puisque c'est une sorte d'explosion musicale qui ouvre l'œuvre, dont on peut admirer la manière dont Tarmo Peltokoski l'a dirigée, puisqu'il a à la fois soigné le détail et suivi la grande ligne. Donc c'est vraiment un grand moment, et on conçoit que le chef, le jeune chef finlandais, soit tombé amoureux de cette œuvre et de cette production. Et puis alors, les interprètes, outre l'Orchestre National du Capitole en grande forme, bien nous avons retrouvé avec grand plaisir le célèbre Orfeón Donostiarra, le chœur basque avec comme chef de chœur José Antonio Sainz Alfaro, qui était présent évidemment, qui est venu très souvent à Toulouse.
Il y a au moins 40 ans qu'ils viennent.
Mais c'est Michel Plasson qui le premier les
avait fait venir. En 84, ils avaient enregistré les Requiem de Forêt avec le Capitole dirigé par Michel Plasson. Ouais. Donc il y a au moins 40 ans, même plus de 40 ans maintenant, qu'on les voit à Toulouse.
Voilà, exactement. Et donc on peut admirer dans ce chœur la justesse, la précision, l'équilibre des registres. Il n'y a pas de voix qui domine, donc c'est très très bien fait.
Alors que c'est un chœur semi-professionnel. Ils ont des métiers à côté, tous les choristes.
Mais d'une beauté incroyable. Et puis il y avait 2 chanteurs solistes qui également se hissaient au plus haut niveau, avec la soprano Chen Rice, que l'on avait déjà admiré dans les 4 derniers Lieder de Strauss lors du concert du 3 mai dernier. Et puis le grand baryton Sir Simon Kinleyside, vraiment un grand artiste, un grand musicien, grand interprète lyrique qui a apporté ici une noblesse impressionnante à ses 3 déclamations, puisqu'il intervient à 3 reprises. Et puis l'orgue, donc, est parfaitement intégré au tissu orchestral et qui était tenu par Emmanuel Pellaprat ce soir-là. Donc, on a eu cette succession des mouvements avec des titres très révélateurs. Le premier, c'était « Song for All Seas, All Ships », c'est-à-dire « Chant pour toutes les mers, tous les bateaux ». Alors là, il y a baryton, soprano et chœur qui ouvrent par cette explosion incroyable ce premier mouvement. Et puis le deuxième volet qui s'intitule « On the beach at night alone », c'est-à-dire « Sur la plage la nuit seul ». Et là, c'est le baryton et le chœur qui interviennent. Un scherzo « The waves », les vagues, où seul le chœur intervient avec l'orchestre. Et là vraiment, on a l'impression d'une agitation des vagues, par les cordes en particulier. C'était vraiment impressionnant, là aussi, l'espèce de mimétisme entre la musique et ce qu'elle décrit. Et puis le dernier, The Explorers, donc les explorateurs, qui résonnent alors bizarrement comme une sorte d'hymne apaisé, un hommage aux découvreurs en quelque sorte, avec au milieu une sorte de crescendo solaire qui était totalement impressionnant. Et puis surtout, le décrescendo progressif vers le silence, un silence qui s'est prolongé, mais au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. On avait l'impression que, aussi bien les musiciens que le public, étaient tétanisés.
On est resté sur un instant suspendu.
Suspendu pendant peut-être 2 minutes, enfin c'était impressionnant, hein, avec une émotion vraiment palpable. Alors c'était une ovation qui a accueilli cette interprétation, évidemment. Tarmo Peltokoski a été acclamé avec la même ardeur par le public et par les interprètes, oui. Et par les musiciens, on l'a vu. Il a remercié tout le monde avec effusion. Et puis, il a pratiqué une chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'est-à-dire qu'il a soulevé les jambes de son pantalon pour faire voir que ses chaussettes étaient à l'image du drapeau britannique.
De l'Union Jack, le
Union
drapeau
Jack
britannique.
Aux chaussettes, ça c'était impressionnant.
Alors, je ne sais pas si tout le monde a pu voir, parce qu'il fallait être un peu en surplomb quand même.
Non, mais
il n'a quand même pas levé la jambe. Hein.
Que quelqu'un ici a très bien vu, qui est avec nous, c'est Robert. Robert Penavert qui était tout près des pieds du chef et qui a dû s'apercevoir.
Et Robert qui est anglophile, ça a dû vous plaire.
Oui, oui, ça, tout à fait. Mais j'étais étonné parce que depuis le début du concert, il y avait quelque chose qui attirait mon regard. Je trouvais qu'il avait des chaussettes un peu voyantes, voilà.
Clairement,
mais pourquoi pas, hein, c'était des chaussettes, c'est des chaussettes qu'on trouve beaucoup à Londres, voilà. Et puis à la fin, effectivement, lorsqu'il a soulevé son pantalon, effectivement, je trouvais ça très rigolo, mais c'est en même temps un geste qui est bien de son âge.
Oui,
très
oui,
clairement,
oui.
Il a 23 ans, 24 ans, je crois.
Ouais, 24, il était heureux comme un gamin à la
voilà.
fin.
Ah, oui, et oui, alors, je voudrais souligner également, si tu permets, Serge,
mais oui.
c'est que, avant de montrer ses chaussettes, hein, donc, il s'est retourné vers le public en brandissant
la partition
un peu dans le geste, comme je disais à Serge, comme Moïse qui brandissait les tables
de la loi.
Oui, c'est dans le film de Cécile Bandemeyle et les 10 commandements. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et puis ensuite, il a pris cette partition qu'il a tenue sur son cœur, qu'il a serrée.
Oui, il a applaudi même sur la partition.
Voilà, il a applaudi le compositeur.
Bah, ça montre qu'il a une espèce de vénération pour Vaughan Williams.
C'est pas pour rien que
les premières œuvres qu'il va enregistrer avec l'orchestre, c'est quand même les 9 symphonies de Vaughan Williams.
Chef
d'œuvre du gramophone en plus.
Oui,
qui va faire rentrer l'orchestre
dans
un des plus prestigieux labels classiques qui soit.
Une œuvre rarissime, très rarement donnée en concert. Non, mais je crois qu'il a brandi cette partition parce qu'il a voulu que les ovations s'adressent au compositeur.
Bien sûr.
Au moins autant qu'à lui et qu'on
interprète. Mais s'il a montré un enthousiasme, une spontanéité, un naturel, mais je pense qu'il a plu beaucoup au public d'ailleurs.
C'est déjà le chouchou du public. D'emblée, il y a une relation qui s'est créée entre lui et le public. Imaginez tout de même, quelques années, quelqu'un qui aurait dirigé la première symphonie de Vaughan Williams à la Lohengrin avec que ça en plus au programme, il n'y avait rien d'autre. Vous croyez qu'il y aurait une salle pleine comme elle l'était samedi? Il ne restait plus une seule place.
Qui a attiré la foule.
Ouais, voilà, bien entendu. Parce que les gens
Et c'est une bonne chose.
Bien sûr.
Et
moi, je suis bien content qu'on joue de la musique britannique parce que c'est pas pour plaire à Robert qui est anglophile, comme je le disais, mais la musique anglaise n'est pas assez jouée, je trouve.
Il y a des choses magnifiques
dans la musique anglaise.
On est bien d'accord.
Vaughan Williams, Elgar, même Arnold Bax, on peut en trouver beaucoup comme ça.
Benjamin Britten, évidemment.
Voilà, mais lui est joué.
Le problème, entre guillemets, c'est que Britten a l'air de faire barrage à tous
les autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'entre Purcell et Britten, il ne s'est rien passé.
Exactement.
C'est pourtant qu'il y a de très belles choses.
C'est très bien.
Et grâce à Tarmo Peltokoski, on va pouvoir donc découvrir
très clairement, je crois que Tarmo Peltokoski est en train de faire évoluer, mais énormément le répertoire de l'orchestre du Capitole.
Clairement.
Alors je sais pas ce qu'en pensent les musiciens, tu as parlé avec eux, j'imagine.
Ah, moi j'ai discuté avec quelques-uns, ils étaient ravis.
Ils sont vraiment enchantés.
J'imagine.
Ils sont très contents d'avoir ce chef qui est promis à
Il est très rigoureux, j'ai assisté à des répétitions, il est très exigeant.
Ah oui, ça par contre, ils m'ont dit que les répétitions 2 jours et demi pour cette musique qu'ils ne connaissaient pas du tout, qu'ils n'avaient jamais joué, ils m'ont dit que ça a été tendu quand même.
Oui,
parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient et où ils voulaient en venir. Manifestement, il était très très content du résultat.
Et pour une fois, il a dirigé avec partition, puisque je voudrais rappeler quand même qu'il avait dirigé la symphonie Résurrection de Mahler sans partition et la 9e symphonie de Beethoven sans partition. C'est quand même incroyable.
Nous allons nous remettre dans l'ambiance si particulière et si prenante de la 6 symphonie, la première de Ralph Vaughan Williams. Nous allons écouter son tout début, le très majestueux Behold the Sea Itself, dans une version dirigée ici par Bernard Haitink. Behold the Sea, contempler la mer, le début de la 6 symphonie de Ralph Vaughan Williams dans une version du London Philharmonic Orchestra, dirigée donc par Bernard Haitink, avec qui nous terminons cette première partie d'émission. Petite virgule musicale maintenant avant de retrouver Serge Chauzy et Robert Pénavert pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Robert et Serge. Nous allons donc le commencer avec la prochaine production présentée à l'Opéra National du Capitole. Il s'agit d'Orphée aux Enfers et il n'y a pas moins de 7 représentations de l'œuvre de Jacques Offenbach au Théâtre du Capitole du 24 janvier au 2 février dans une mise en scène signée Olivier Py. Robert va nous en dire plus sur cette nouvelle production, mais comme d'habitude, avant d'y venir, nous allons faire quelques rappels historiques avec vous si vous le voulez bien. Quand a été créé pour la première fois Orphée aux Enfers au Capitole? Et puis depuis quand ne l'avons-nous plus vu sur la scène lyrique toulousaine? Nous vous écoutons, Robert.
Voilà, alors en fait, Orphée aux Enfers, Offenbach, on peut s'imaginer que c'est un peu la nourriture annuelle d'un théâtre lyrique. Offenbach, parce qu'Offenbach amène du monde, parce que, etc. Eh bien non, les recherches que j'ai faites ont abouti à une première représentation à la fin du XIXe siècle, donc c'est-à-dire peu de temps après la création de cette version, 1874,
oui, dont
je rappelle.
Il y a eu une première version en 1958.
Voilà.
Il a revu après
Et puis ensuite, je ne trouve plus trace. Il me faut attendre juin 1992.
Donc il n'y a rien eu pendant un siècle quasiment.
Il n'y a rien eu pendant un siècle quasiment. C'est un peu incroyable, mais bon, ben, c'est comme ça. C'est bien dommage. Alors, l'œuvre maintenant, ça c'est dit. L'œuvre, bon, comme vous disiez très justement, Eric, il y a eu deux versions. Il y a eu une première version qui s'appelait un opéra bouffon, en deux actes et quatre tableaux, qui a été créé en 1858. Puis finalement, cette version, quelques années après, 16 ans après, oui, exactement, en 1874, a été considérablement remaniée, s'est transformée en un opéra féerie, en quatre actes et un nombre incroyable de tableaux, plus des ballets. Voilà. Et c'est cette version, bien évidemment, qui sera donnée au Théâtre du Capitole à la fin de ce mois-ci. Alors là, la petite mauvaise nouvelle, bon, c'est qu'il n'y a plus de place.
Ah oui, c'est déjà les sept représentations
sont à guichet fermé.
Alors, comme c'est souvent le cas depuis quelques temps. Oui. Mais non, mais il faut bien que nos auditeurs comprennent que lorsqu'ils veulent aller voir un opéra au Théâtre du Capitole, il faut s'y prendre tôt, parce que même quand il y a 7, 8 ou 9 représentations, c'est rempli très vite.
Voilà. En fait, maintenant, le public va à la Lohengrin, on peut le constater, peu importe le programme, parce que Eussy Symphony, effectivement, ce n'est pas très connu non plus.
Mais non.
Voilà, nous le disions, Orphée aux Enfers. Vous vous rendez compte, depuis 30 ans, ça n'a pas été donné. Eh bien, malgré tout, le public va au Capitole parce que je pense que le public a confiance dans les phalanges, que ce soit l'orchestre, le chœur, le ballet du Capitole. Ils savent que de toute façon, ils ont affaire à des artistes de très grande qualité. Bon, en plus, Orphée aux Enfers, pardon, de Jacques Offenbach, mais c'est un petit chef-d'œuvre.
Oui.
Et alors, je peux vous dire qu'en plus, à l'époque, il faut dire, lorsque c'était donné, lors de la création, par exemple, de cette version en 1874, eh bien, c'était donné donc au Théâtre de la Gaîté, à Paris, et beaucoup d'artistes qui étaient engagés par Offenbach, qui prenaient en gros ce qu'ils trouvaient, étaient surtout des artistes de comédie dramatique, des acteurs qui chantaient, effectivement, ils chantaient un peu comme
c'était un peu des artistes de musical.
Comme ils pouvaient, quoi.
C'était
voilà.
Un peu des artistes de musical qui donnaient un peu, qui touchaient un peu à tout. C'était pas purement des chanteurs lyriques.
Alors, autant vous dire que ce n'est pas du tout l'option qui a été choisie par Christophe Christie, puisque donc, il nous donne une distribution avec de grands chanteurs d'opéra.
Oui, alors on va y venir à la distribution. Peut-être un retour sur l'argument, parce qu'on part de la mythologie grecque, mais il faut voir ce qu'il en fait.
Mais on part, puis on la laisse tomber rapidement.
Oui.
Il y a toujours Orphée Eurydice, c'est clair et net, mais là, dans cette version, Eurydice ne peut pas supporter... Alors, Orphée est violoniste, et elle ne peut pas supporter son crin-crin, comme elle le dit. Et lui, justement, à un moment, il va lui faire écouter pour la première fois, alors qu'elle se bouche les oreilles, son concerto pour violon. Bon, voilà. Et elle ne peut pas lui dire d'arrêter à tout moment. Bon, enfin. Mais en fait, ils ne s'entendent pas du tout.
Ah non, du tout.
Et ils se trompent joyeusement l'un l'autre. Et Eurydice est amoureuse, c'est dans le texte, d'un joli berger. C'est elle qui le dit.
Aristée.
Qui est en fait Aristée. Aristée n'est pas un berger, elle ne le sait pas. Mais c'est Pluton. Pluton, le dieu des enfers, évidemment, qui est tombé follement amoureux d'Eurydice. Et il faut reconnaître qu'Orphée, lui, entre deux traits de violon, courtise les nymphes également. Enfin, il se trompe et puis, bon, il ne s'aime plus. Et ce qui doit arriver arrive quand même, parce qu'il faut se tenir un peu près de la mythologie. Eurydice va être mordu par un serpent et va mourir. Évidemment, Pluton n'attend que ça et l'amène immédiatement aux enfers. Et Orphée est assez content d'être débarrassé d'elle.
Bah tiens.
Voilà. Malheureusement, arrive un personnage qui n'a rien à voir avec la mythologie, c'est l'opinion publique.
Ça, c'est formidable, c'est quand même génial.
Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et qui lui explique, non, mais attends, il n'est pas question de te réjouir, on va filer directement à l'Olympe auprès de Jupiter, pour lui demander d'intervenir, afin que cette histoire s'arrête là, et on va aller réclamer Eurydice aux enfers. Deuxième acte, on se retrouve à l'Olympe, où tous les dieux sont en train de dormir, parce qu'ils ont tous eu des nuits relativement agitées.
Oui, on va le dire comme ça.
Et on va le dire comme ça à cette antenne, voilà. Et arrive l'opinion publique et Orphée qui se plaignent de cette histoire-là, qui va être en définitive entériné par l'intervention de Mercure, qui va dire, oui, à propos Mercure, lui aussi, qui revient, on ne sait pas trop d'où, mais qui est au courant de tout. Vous savez, c'est le dieu des voleurs, des marchands, en fait, etc. Et qui va lui dire, oui, il s'est passé quelque chose. Et en fait, il révèle le poteau rose. Jupiter est fou de rage et dit, non, non, on va aller régler cette affaire immédiatement. Et puis, tant qu'à faire, on y va tous. Et tout l'Olympe débarque aux enfers. Et ce sont les deux derniers actes avec le cancan.
Oui,
avec
le pauvre Orphée qui ne peut envisager le divorce, qui en fait ne peut pas s'affranchir de l'opinion publique et du regard des autres. Il est esclave complètement.
Voilà.
C'est tout de même un détournement du mythe qui était.
Mais d'ailleurs, à l'époque, il y a beaucoup de critiques à la création qui avaient condamné un peu cette version en disant, mais enfin, tout de même, vous vous rendez compte de ce que vous faites de cette œuvre grandiose de la mythologie grecque.
Voilà.
Sauf que le succès public a été immédiat. Je crois que de son vivant, il y a eu plus de 1000 représentations du vivant d'Offenbach, représentation d'Orphée aux enfants.
Pour arriver in fine, bon, quand même, Pluton est obligé de lâcher, entre guillemets, Eurydice, mais il lui dit, effectivement, je te la rends, mais d'ici que tu reviennes sur Terre, donc tu ne peux pas te retourner. Le deal étant donné, tout se déroule comme dans la mythologie, sauf qu'à un moment, il y a un grand coup de tonnerre, on se demande bien d'où vient, mais on le sait. Et donc, Orphée a peur.
Il sursaute,
il se retourne. Et son regard tombe sur Eurydice, qui évidemment est damnée éternellement, sauf qu'il est décidé qu'elle deviendra une bacchante. Et ce dont elle rêvait. Donc, tout est bien qui finit bien. Orphée et Eurydice retrouvent leur indépendance, on va dire. Et tout se termine, évidemment, dans la joie et la bonne humeur, comme toujours chez Offenbach, du moins dans ce genre d'ouvrage.
Alors, dans quelques minutes, nous allons évoquer cette nouvelle production d'Orphée aux Enfers au Capitole, et notamment sa distribution. Mais auparavant, voici un premier extrait de l'opéra de Jacques Offenbach dans cette émission. C'est le chœur des bergers que l'on entend lors du premier acte. Voici la 12e heure. Voici la 12e heure, le chœur des bergers, que l'on entend donc au premier acte d'Orphée aux Enfers. Il s'agit là d'une version enregistrée en 1978 par le chœur et l'orchestre du Capitole sous la direction de Michel Plasson. Nous emmenons maintenant à cette nouvelle production de l'opéra d'Offenbach au Capitole et à sa distribution. Il va y avoir de très nombreuses prises de rôle pour les personnages principaux. Robert, il n'y a quasiment que des prises de rôle.
Oui, tout à fait, oui. Mais les chanteurs, je le disais tout à l'heure, lors de la création, bon, c'est vrai, en 1874, on l'a dit déjà, c'était des comédiens qui chantaient, qui dansaient, qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient, certainement très très bien. Alors donc, Christophe Christie a décidé de convoquer la fine fleur du chant français, et en particulier deux chanteurs qui ont chanté dans la dernière reprise d'Idoménée.
Oui.
Et donc, il y avait Idamante. Oui. Cyril Dubois, Et il y a Marie Perbost. Bon, excusez du peu quand même.
Oui, oui.
Alors, il faut savoir que tout de même, quand on regarde de près la partition, autant la partition d'Orphée, évidemment, c'est celle du bois, hein, bien sûr, hein, n'est pas infernale à chanter. Par contre, celle
de Eurydice,
c'est très difficile à chanter, avec des contremis, enfin, avec des choses extrêmement difficiles. Et c'est certainement l'une des parties, c'est sûr même la partie la plus difficile à chanter. Mais il n'y a pas que, il y a eux, bien sûr, mais il n'y a pas que. Aristée, donc c'était Pluton déguisé en joli berger, c'est Mathias Vidal.
Encore un
qu'on a
bien,
applaudi déjà dans Nadir des pêcheurs de perles, voilà. Jupiter, c'est Marc Scofoni. L'opinion publique, alors pour ma part, je vais la découvrir. Elle s'appelle Adriana Bignani-Lesca, je ne la connais pas, mais bon, je vais la rencontrer, je crois, dans quelques jours. John Styx aussi, oui, c'est un personnage.
Ça, il faut imaginer ça.
John Styx, voilà le gardien des ténèbres, Rodolphe Briand, qu'on a souvent entendu. Diane, c'est Anaïs Constant. Chez nous, elle a quand même chanté la bohème.
Très content de retrouver Anaïs Constant sur la scène du Capitole, bien sûr,
voilà.
Dans le rôle de Diane.
Vénus, Marie-Laure Garnier.
Encore une tête et une voix connue. Encore une
habituée. Junon, Céline Labourie. Cupidon, Julie Gousseau. Mercure, Enguerrand de Huys.
Ah, encore un régime de l'étape, un peu. Oui.
Bon, alors vous en souvenez peut-être pas, mais la première fois qu'il a chanté au Capitole, il faisait un écuyer dans Parsifal.
Oui. Et on l'a vu dernièrement dans le rôle de Baumann dans Voyage d'automne.
Il faisait Hans Baumann, et ce n'était pas un petit rôle. Non. C'était en plus un rôle très exposé scéniquement dans Voyage d'automne. Voilà. Donc Enguerrand de Huys fera Mercure. Et Enguerrand de Huys, finalement, c'est un rôle qui a été ajouté dans la dernière version. 1874, il n'existait pas le rôle dans la première version, et il a quand même un air d'entrée très difficile qui ressemble à un air rossinien, très difficile avec un chant staccato très délicat, il faut maîtriser énormément sa respiration. Et puis ensuite Mars, c'est Camille Ben Essaïn Lachiri, alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est l'un de nos derniers Papageno. Au Théâtre du Capitole. Et moi, il m'avait fait une énorme impression.
Je crois que vous nous en aviez parlé.
Voilà. Et donc, c'est lui qui chante Mars. Et Minerve, c'est Lucile Verbizier. L'Orchestre du Capitole, les chœurs et la maîtrise, évidemment, l'Orchestre du Capitole. Plus, il faut le souligner, l'intervention des enfants du projet Demos, qui seront là.
Ça, c'est formidable.
Pour
ça.
Participer également
pour
à cette
eux, ça
production.
Va être une expérience.
Alors, c'est une production qu'on n'étreigne pas, même si nous sommes coproducteurs. Puisque donc on est coproducteur avec l'Opéra de Lausanne et l'Opéra de Tours, et elle a été créée déjà en 2023, avec énormément de succès. Alors je le dis, je le répète, parce qu'au cas où il resterait quelques places, où des places seraient ramenées, vous pouvez
ça
toujours
n'empêche pas tenter
essayer,
sa chance, bien sûr.
Mais c'est une production qui est signée Olivier Pille pour la mise en scène, dans les décors et costumes de
Pierre-André Weiss, c'est le duo inséparable.
Et alors, franchement, elle est visible par tout le monde. Il faut le dire, parce que parfois, les productions d'Olivier Pie, il n'a pas fait que le dialogue des Carmélites. Et il a fait quelques productions.
On se souvient
ici, par exemple, de la Gioconda, qui avait quand même... La Gioconde qui avait donné lieu à un avertissement aux spectateurs de moins de 12 ans.
La direction musicale, on va découvrir aussi une chef, Chloé Dufresne.
Voilà, elle va faire ses débuts à Toulouse. Alors personnellement, je ne la connais pas, mais bon, on va faire connaissance avec cette dame, avait mis le plaisir. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est un spectacle que personnellement j'attends avec... beaucoup, beaucoup d'impatience. Mais
apparemment,
parce que...
il y a des milliers de gens qui l'attendent avec impatience puisqu'ils ont déjà réservé leur place.
Bon, voilà. C'est très beau. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements. Il y a de la danse. Donc, la chorégraphie est assurée par Ivo Bocchiero. Donc, c'est un spectacle très grand public pour une œuvre majeure de notre répertoire.
Oui. Et dans Orphée aux Enfers, il y a aussi une pièce fameuse que tout le monde connaît, le French Cancan, ce galop infernal, dont je vous propose là encore une version enregistrée par le chœur et l'orchestre du Capitole en 1978 sous la direction de Michel Plasson. Thank you. French Cancan, le célèbre galop infernal d'Orphée aux Enfers, la version enregistrée par le chœur et l'orchestre du Capitole sous la direction de Michel Plasson. Et Robert Pénavert voulait dire quelque chose.
Oui, au sujet de ce galop. Alors, bon, il est clair qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus connu au grand public comme musique de scène de certains spectacles qui n'ont rien à voir avec l'opéra. Bien évidemment, c'est un morceau qui a été détourné de sa véritable vocation.
Bien sûr, voilà. Bien sûr.
Offenbach ne l'a pas écrit pour ce
à quoi il sert aujourd'hui. L'opéra de Jacques Offenbach est à l'affiche du Capitole du 24 janvier au 2 février pour 7 représentations qui sont complètes. C'est ce que vient de nous apprendre Robert Pénavert, mais vous pouvez évidemment tenter votre chance. On ne sait jamais, surtout en ce moment avec tous les virus qui traînent, il y aura peut-être des places qui vont se libérer au dernier moment. Nous restons à l'Opéra National du Capitole pour le récital que va y donner la soprano bulgare Krasimira Stoyanova dimanche prochain le 19 janvier à 16h, accompagnée par la pianiste Viara Schuperlieva. Elle va interpréter un programme de Lieder de Gustav Mahler et Richard Strauss et des mélodies de Rachmaninov, Robert.
Alors, c'est une grande surprise que nous fait Christophe Christie, parce qu'il faut savoir que Krasimira Stoyanova n'est jamais venue chanter à Toulouse. Or, en fait, c'est l'une des plus grandes sopranos aujourd'hui du circuit. C'est une Aïda magnifique,
partout,
c'est une
poème ouais,
magnifique,
monde, hein.
Milan, Vienne, Berlin, enfin partout. Enfin, c'est une chance incroyable que nous avons. Vraiment, c'est une artiste exceptionnelle. Hein. Alors, Mahler, Strauss, vous l'avez dit, Richard Strauss, plus Rachmaninov, le public toulousain, une grande partie, j'imagine, hein, du public toulousain va l'entendre pour la première fois, mais précipitez-vous parce que vraiment, elle s'inscrit parfaitement dans cette suite de récitals du dimanche. Dernièrement, on avait Marina Rebecca. Pardon,
mais, ah oui, mais c'est pas rien. Avant
Marina Rebecca, on avait Stéphane de Goût, excusez-moi, puis on aura Véronique Jans, puis Michael Vohl, pour terminer. Ces récitals du dimanche après-midi sont de...
Ce sont des
pépites extrêmement précieuses.
Voilà, donc Krasimira Stoyanova va chanter les Rückertlieder de Gustav Mahler. Et puis Richard Strauss, il y aura Ich schwebe, Waldseligkeit, Zwingung, et puis Morgen. Et enfin, il y aura 12 mélodies de Serge Rachmaninov. Voici un petit aperçu du programme et de la voix de Krasimira Stoyanova avec cette interprétation d'une mélodie justement de Serge Rachmaninov. « Ne poi krasavitsa primone, ne chante pas ma beauté » composée sur un poème d'Alexandre Pouchkine.
Oh!
Né poi Krasavitsa Primone, ne chante pas ma beauté, très belle mélodie de Serge Rachmaninov, composée sur un poème d'Alexandre Pouchkine, chantée ici par Krasimira Stoyanova, la grande soprano bulgare, est donc en récital à l'Opéra National du Capitole dimanche prochain, le 19 janvier à 16h, accompagnée par la pianiste Viara Shuperlieva, et puis deux événements encore à vous annoncer cette semaine. Un spectacle musical donné samedi 18 janvier à 18h à la Halle aux Grains, avec l'Orchestre National du Capitole, mais aussi avec un récitant et une mise en scène. Il a pour titre Berlioz Strip Orchestra, et Serge Chosy va nous expliquer de quoi il retourne, parce que c'est assez original tout de même.
Ah oui, oui, alors c'est pour évoquer Berlioz tombé amoureux de l'actrice Harriet Smithson après l'avoir vue dans une représentation d'Hamlet.
Néerlandaise, il me semble.
Oui, oui, exactement. Et donc, il y aurait écrit 40 lettres qui ont été envoyées, qui resteront sans réponse. Et cet amour soudain pour l'actrice est un peu à l'origine de la Symphonie Fantastique. Hein. Donc c'est un événement important qui sera mis en scène avec un comédien, Régis Royer, et sous la direction de Christophe Mangou, avec une autrice et metteuse en scène qui s'appelle Géraldine Aliberti Ibáñez. Et donc c'est un vrai spectacle hein, autour de ces événements qui mêlent l'hyper-romantisme de Berlioz avec la société de son temps.
Il y aura des extraits, évidemment, de la Symphonie Fantastique, du songe d'une ligne de Sabbat, et puis, bon, sans doute, d'autres petites choses. Et c'est dirigé par Christophe Mangou, qu'on connaît bien parce que c'est lui qui dirige la plupart des concerts jeunes publics les dimanches matins à la Halle aux Grains avec l'Orchestre du Capitole. Et bien, voici un petit extrait de ce spectacle Berlioz Strip Orchestra. Vous allez entendre la voix du comédien Régis Boyer.
Excellente cette marche, on la garde. Vous vous rendez compte? Une marche au supplice. Ah non, mais moi, enfin, j'adore cette idée. Mes mains trembleront certainement. Mes yeux chercheront de toutes parts une issue à cette fin tragique. Maintenant, cette marche inexorable me mènera directement à l'échafaud. Comme un peintre a besoin d'une palette de couleurs, moi, j'ai des instruments, des timbres de couleurs différents. Pour moi aussi, peindre mes émotions, l'amour, la peur, l'angoisse. Moi, je rêve d'un orchestre avec 467 musiciens.
Extrait du spectacle musical Berlioz Strip Orchestra que donne donc l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Christophe Mangou et le comédien Régis Boyer qui officie en tant que récitant ce samedi 18 janvier à 18h à la Halle aux Grains. Et puis le mardi 21 janvier, 6 musiciens de ce même Orchestre National du Capitole se produisent en sextuor au Centre de Congrès d'Exposition Diagora de l'Abège à 20h. Rapidement Serge, qui sont ces 6 musiciens et quel programme vont-ils nous proposer?
Des musiciens bien connus, et notamment des musiciennes en particulier, avec Jaewon Kim, qui est co-super soliste de l'Orchestre National du Capitole, et Audrey Loupy, de violon, donc, puis Juliette Gilles et Anne-Sandrine Duchesne, alto, et enfin Pierre Gilles et Élise Robineau, violoncelle. Alors, ces six personnes, ces six musiciens, vont jouer d'abord le sextuor numéro 1 de Brahms, pièce célèbre, hein, et puis la pièce de Tchaïkovski qui porte le nom évocateur de Souvenirs de Florence. Voilà un beau programme qui est donc annoncé pour ce concert événement le mardi 21 janvier.
Voilà, il me semble que ce programme, en tout cas Souvenirs de Florence, on l'avait eu au Clé de Saint-Pierre il y a quelques années, oui, par des musiciens. Alors quelques années, non, au moins une dizaine d'années, par des musiciens de l'Orchestre National du Capitole qui n'étaient pas ceux-ci. Donc je ne sais pas si c'est une reprise. Est-ce qu'il y avait le sextuor de Brahms le même soir? C'est pas impossible. Là, ces deux heures aient pu être données ensemble, tout ça, une reprise de ce programme. En tout cas, ce n'est pas des œuvres qu'on entend si souvent que ça.
Non, non.
Donc je rappelle que l'Orchestre National du Capitole donne son concert Berlioz Strip Orchestra sous les directions de Christophe Mangou et avec le comédien Régis Boyer en tant que récitant ce samedi 18 janvier à 18h à la Lograin, et que le mardi 21 janvier à 20h, un sextuor de musiciens de l'Orchestre du Capitole se produit au Centre de Congrès et d'Exposition Diagora de la Bège. Les réservations et la billetterie sont en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. D'autre part, je rappelle que la nouvelle production d'Orphée aux Enfers, l'opéra de Jacques Offenbach, est à l'affiche du Théâtre du Capitole dans une mise en scène d'Olivier Py à l'occasion de 7 représentations entre le 24 janvier et le 2 février. C'est donc à voir tous les jours pendant cette période, sauf les 25, 27 et 30 janvier. Normalement, il n'y a plus de place, c'est ce que nous a dit Robert. Bon, encore une fois, vous pouvez quand même essayer d'avoir des places, on ne sait jamais. Précipitez-vous au Capitole aussi pour aller écouter la soprano Krassimira Stoyanova ce dimanche 19 janvier à 16h. Elle y chante un programme de Lieder de Gustav Mahler et Richard Strauss, ainsi que des mélodies de Serge Rachmaninoff. Vous pouvez réserver et acheter vos places pour ces deux événements en vous connectant au site www.opera.toulouse.fr. Je remercie mes amis Serge Chosy et Robert Pénavert qui ont très brillamment co-animé ce numéro avec moi comme d'habitude. Merci aussi à Christophe Aubry qui l'a réalisé. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à nos fidèles auditeurs et à ceux qui découvraient cette émission aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.